Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est l'oubli de chercher Dieu. Le contraire du prochain, ce n'est pas le lointain, l'alibi, c'est celui dont je m'éloigne. Le contraire de la vérité, ce n'est pas l'erreur ou l'hésitation, c'est le fait d'enfermer ou d'imposer sa vérité. Écoute Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il est bon et joyeux de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle. Il est bon et joyeux d'être les invités, les amis, les frères de Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, de sa promesse et de son royaume. Il est bon et joyeux d'attendre la venue de l'Esprit-Saint afin que nous ayons communion les uns avec les autres et que nous recevions chacun et tous ensemble la vie qui vient de Dieu. Tu es la source et l'estuaire, l'aube et l'aube d'un jour nouveau. Tu es l'être première et dernière, tu es le don et la demande, tu es la joie et le tourment, tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Amen. Les textes religieux expriment les motivations profondes qui instruisent les peuples, les croyants. Et les textes religieux ne vont pas tous dans le même sens. Il convient de les étudier calmement, rationnellement, pour comprendre la motivation profonde, les motivations profondes qui instruisent les peuples, qui influencent les peuples, les croyants, et qui ne vont pas tous dans le même sens. Aujourd'hui, dans notre société sécularisée, on ne comprend pas cette motivation première qui se trouve en arrière-fond des idéologies qui motivent et malheureusement qui déchirent souvent le monde. Par exemple, dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, il y a cet arrière-fond religieux, l'interprétation des textes, et pas seulement, et pas d'abord, comme on le dit souvent en se trompant, la motivation politique et territoriale. Il y aurait la place pour tous dans ces régions désertiques si les subventions humanitaires avaient été utilisées pour l'irrigation des terres, pour les peuples, si Gaza était devenu un Singapour moderne, cela aurait été possible si la motivation guerrière n'avait pas été, malheureusement, première. Motivation première et religieuse. Quand on travaille la question, on sait que les hadiths dans l'islam et la sirah, la vie du prophète, la sirah, texte tardif, prônent l'élimination des juifs à la suite du prophète dans ses guerres successives contre les tribus juives près de Médine. Par exemple, après le massacre de 900 juifs, deuxième épisode, l'épisode de Kaïbar, qui n'est pas forcément historique, le Coran n'en parle pas, c'est plus tardif, mais auquel se réfèrent les terroristes du Hamas, du Hezbollah ou de Daesh avant eux. En tant que lecteur des textes religieux, nous devons décortiquer tout cela, les textes, recevoir la tradition et décortiquer la tradition, voire d'un peu plus près. Bien distinguer, par exemple, dans l'islam, entre ce que dit le Coran, en général bénéfique, pacifique, intéressant, spirituel, et ce que disent les hadiths tardifs des époques califales. De même, pour la Bible, il convient de discerner les différentes sources. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a la source prophétique d'un côté et la source sacerdotale de l'autre, qui ne disent pas la même chose. Tout ne se vaut pas. Dans le protestantisme, nous avons eu cette lecture critique, historique des textes, qui est dans notre monde de plus en plus nécessaire, cette lecture critique, historique des textes, qui nous permet de redécouvrir donc cet enseignement, apprécier les textes en les plaçant dans leur contexte historique. Donc, chers amis auditeurs, lisons la Bible et les autres textes religieux, par exemple des autres religions, pour comprendre nos frères dans l'universalité de notre monde, pour comprendre nos frères, leur motivation et rentrer en dialogue avec eux. Cette tâche est certes difficile parce que dans notre monde, les références littéraires, religieuses se sont perdues et ce ne sont que les fondamentalistes des différentes religions qui s'expriment. Les athées aussi sont devenus fondamentalistes de la non-connaissance religieuse qui entraîne plusieurs laisser-aller irresponsables et quelquefois dangereuses. Donc, revenons au texte, au pluriel. Je vous propose de prendre un texte dans l'Ancien Testament, un texte très court, 3 chapitres seulement, dans un hébreu relativement récent, un texte qui est placé dans les petits prophètes dans la Bible, mais qui devrait être placé peut-être, sans doute, à la fin, peut-être juste avant le Nouveau Testament. Tellement ce texte surprend et décloisonne les certitudes israélites de l'époque. J'ai dit tout à l'heure qu'il nous fallait distinguer l'interprétation des hadiths du Coran dans l'islam. Le Coran est bien meilleur que les hadiths guerriers et qui sont tardifs. Ici, c'est le texte un peu plus tardif dans l'Ancien Testament, le texte du prophète Jonas, ce petit texte de 3 chapitres, qui est en fait meilleur, entre guillemets, meilleur que la référence historique beaucoup plus ancienne. Dans 2 Rois 14-25, il est question de ce prophète, Jonas, qui, à son époque, avait rétabli la puissance territoriale d'Israël contre les voisins d'Israël, tous ses ennemis, nombreux comme de tout temps. Eh bien, le petit livre de Jonas, plus tardif, donne le bon rôle aux ennemis d'Israël, curieusement, et le mauvais rôle au prophète nationaliste qui devient ici la figure du anti-héros. Alors peut-être que Jonas a été écrit à l'époque perse, hein, parce que ce sont les Perses qui ont en fait aidé les Juifs contre leurs oppresseurs. Pour la première fois, donc, le royaume perse a aidé le peuple d'Israël, les Hébreux, contre les oppresseurs, donc les Babyloniens, et puis après les Grecs, et puis enfin les Romains. Je vous propose d'écouter cet extrait au chapitre 3 du prophète Jonas, petit texte. Tout le chapitre du petit livre de Jonas. Jonas est le type même du missionnaire, celui qui a reçu le ministère de la parole. Dieu lui demande de suivre et de proclamer son message. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Donc ce texte est après, au chapitre 3, et après un premier refus, une première désobéissance de Jonas qui, ici, finalement, obéit. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» Et lui, il ne met pas le ton, il ne s'applique pas, il annonce simplement la chose, le jugement. « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Donc c'est vraiment surprenant, parce qu'il semble que leur conversion arrive facilement, tout d'un coup. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, donc un dictateur, quand on dit roi de Ninive, à l'époque biblique, on sait que les rois de Ninive, les rois d'Assyrie, étaient des dictateurs féroces, ennemis d'Israël, et l'histoire historique ne dit pas qu'il y eut parmi les rois de Ninive, un qui se soit converti, et surtout de cette façon, l'histoire ne le dit pas. Mais le texte le raconte, la chose arriva au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent pas, ne boivent pas d'eau. Donc un jeûne liturgique, même pour les animaux, ce qui est vraiment curieux et surprenant pour les gens qui lisaient ce texte et les Hébreux. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Alors, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Donc, encore quelque chose de curieux dans ce passage où Dieu apparemment change pour devenir meilleur. Il change de point de vue, il devient meilleur. Et cela déplut fort à Jonas, qui fut très irrité. Que Dieu soit bon, déplut fort à Jonas. Ah, je savais bien que tu es un Dieu plein de pitié et de tendresse, riche en bonté, et qui se repent du mal, fait dire le petit livre de Jonas au prophète du même nom. Oui, le prophète de Dieu, ici, est mécontent, non de l'étroitesse de Dieu, mais de sa largeur, non de sa sévérité, mais de son pardon. Non du particularisme de son élection, mais de sa générosité universaliste. Jonas, fais-tu bien de t'irriter ? Dit le texte. Oui, Éternel, répond Jonas dans notre texte, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Deux hommes dans l'Ancien Testament demandent la mort. Job, pour de bonnes raisons terribles, ou du moins pour assez de raisons multiples et dramatiques pour que sa demande soit par nous aujourd'hui encore compréhensible. Et ici, Jonas, pour des raisons injustes et futiles, totalement incompréhensibles et ridicules même. Jonas contemplait avec énervement la ville de Ninive en train de se convertir. Et Dieu, dit le texte, mais pas le texte que nous avons cité directement, Dieu fit croître une plante, une petite plante, un ricin, pour lui donner un peu d'ombre, parce que Jonas râlait. Mais Jonas ne décolère pas. Alors Dieu fit venir, dit le texte, un petit ver pour piquer le ricin, faire sécher la plante, et que Jonas n'ait plus d'ombre. Tout cela déplut fort à Jonas, dit le texte. Jonas qui fut très irrité. Fais-tu bien de t'irriter, Jonas ? Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et au second plan, derrière la mauvaise humeur de Jonas, l'anti-héros exemplaire, le contre-prophète, prophète malgré lui, le lecteur voit les foules se convertir au Dieu de l'ancien Israël. Incroyable ! Tous les étrangers, tous les ennemis d'Israël, rois de Ninive en tête, grands et petits, et des animaux en grand nombre, se convertirent, curieusement, jeûnaient et priaient. Magnifique vision inespérée. Le livre de Jonas est construit comme une histoire humoristique, en deux actes, aux traits grossis, choisis, forcés, mais réussi. Premier acte, le texte que nous n'avons pas lu, les premiers chapitres, Dieu lui demande « Va à Ninive !» Alors tout de suite, le prophète se leva, et normalement, quand les prophètes se lèvent dans la Bible, c'est pour suivre l'appel de Dieu, normal. Là, le prophète se lève, « Va à Ninive !» Premier acte, donc. Jonas se lève pour aller à l'opposé, à Tarsis, en Espagne. Mais Dieu, tenace, rattrape Jonas dans sa désobéissance par la tempête, par le poisson, pas la baleine, c'est le Coran qui parle de l'histoire de Jonas en disant baleine, mais le texte hébreu, c'est le poisson. Par la conversion extraordinaire des marins sur le bateau, qui posent des questions à Jonas et qui disent « Pourquoi es-tu là ?» etc. Et puis ils se convertissent au Dieu d'Israël. Ce curieux passage. Deuxième acte, le texte que nous avons lu, Jonas a été avalé par le poisson, a prononcé un psaume magnifique qui a été retravaillé et qui est en parallèle avec le livre des psaumes. Et puis Jonas a été recraché sur la plage. Deuxième acte, va à Ninive. Jonas alors se lève et il y va, mais à contre-cœur. Et quand les Ninivites se convertissent, Jonas s'irrite et demande la mort. Alors voyez, chers amis, il y a deux livres dans l'Ancien Testament qui sont placés dans le texte hébraïque comme des correctifs à toute la Bible, et particulièrement à l'Ancien Testament. Job, le livre de Job, et Jonas. Job, au sujet de la toute-puissance de Dieu face au problème du mal. Quelle est la place de la toute-puissance de Dieu face au problème de la souffrance ? 42 chapitres, très longs, très sévères, imbriqués, compliqués, difficiles à interpréter, répondent de façon dialectique et nuancée, mais profonde à cette question. Deuxième correctif à l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, correctif à la Bible, Jonas. Comprenez-moi bien, une lecture possible de l'Ancien Testament pouvait entraîner, avant Jonas, le croyant à un certain chauvinisme au nom de l'élection, un certain israélocentrisme au nom des promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, à Moïse, Jérémie, Ézéchiel, un peu comme quand on a une religion, on a envie de dire « c'est nous qui avons raison » ou comme l'orgueil des protestants. « Écoute, Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu. » Comme si Dieu était pour nous, les uns, les élus, contre les autres, les ennemis ou les étrangers, ceux qui ne partagent pas nos convictions. Les ennemis d'Israël, certes, sont dénoncés plusieurs fois, de nombreuses fois dans la Bible. Mais c'est alors que surgit ce petit livre de Jonas comme un petit pamphlet, comme une polémique sur un ton amusé. Ce n'est pas si simple que cela, dit le petit livre de Jonas face au problème de l'élection, comme Job devant le reste de l'Ancien Testament face au problème de la souffrance injuste et du mal. Dieu aussi, avec sa tempête, son poisson, le soleil, le ricin, le petit ver, se rit de l'élection et de ses prophètes et des hommes de Dieu, comme Jonas. Dieu se moque des exclusivismes, de ceux qui croient avoir raison en tout. Les marins sont réputés païens, polythéistes, surtout pour les Hébreux qui n'étaient pas très marins. Eh bien là, tout de suite, ils se convertissent au Dieu d'Israël. Les Ninivites sont réputés ennemis cruels et acharnés d'Israël. Ça, c'est vraiment historique. On sait que c'est vraiment les Assyriens ont été les grands persécuteurs d'Israël. Eh bien là, ils vont faire Kippour. Ailleurs, l'Ancien Testament annonce une certaine violence. Dans Exode 15, on se souvient, le chant de Moïse, Yahvé est un vaillant guerrier. Nombre 23, Deutéronome 33, bénédiction pour Israël, malédiction pour tous les autres. Juge 5, Israël est en guerre, bénissez-en l'Éternel. Que disait-on de Ninive? Que disait-on de Ninive à l'époque et dans cette Bible? Les prophètes habituels de l'Israël antique annonçaient en fait sa destruction souhaitée, destruction radicale, libératrice. Par exemple, Nahum, un autre petit prophète, un texte ancien mais qui est certainement beaucoup plus ancien que le pamphlet de Jonas. Nahum annonçait catégoriquement « Ninive sera détruite, personne ne la plaindra, Dieu garde rancune ». Et puis après, chers amis, heureusement, nous avons ce petit livre écrit plus récemment, trois chapitres, précisément Jonas, le petit livre de Jonas, qui en fait, je crois, déjà annonce déjà l'Évangile, en renversant les certitudes. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Dans le livre de Jonas, qui ridiculise finalement le prophète, et qui devient, Jonas devient le type même de l'anti-héros, les Ninivites, curieusement, se convertissent quasi spontanément et en foule. Jonas, fais-tu bien de t'irriter ? En cette période, chers auditeurs, cette période internationale bien difficile que nous connaissons, pensons à toutes nos étroitesses d'esprit, passées sûrement, présentes encore. On a toujours tendance à vouloir avoir raison sur tout, sans nuancer d'abord, sans voir les difficultés. Pensons à toutes nos aigreurs, à tous nos mauvais caractères, à toutes nos intolérances, nos méchancetés, conscientes ou inconscientes. Peut-être que les Jonas de tous les temps s'irritent devant la grandeur de Dieu, s'irritent devant l'amour de Dieu, parce que cette grandeur et cet amour sont plus grandes et que ce que nous pouvons penser et ne sont pas à notre mesure. Jonas demande à la mort car il se sent menacé. Il faut sûrement beaucoup de foi pour rencontrer ou supporter l'autre sans se sentir menacé, être assez sûr de Dieu et de sa foi, être serein pour rencontrer, tout simplement, écouter celui qui diverge de moi ou celui qui a sur le front la mauvaise étiquette. Ici, Ninivite, comme aujourd'hui, sioniste, palestinien, immigré, anti-immigré. Et moi, dit l'Éternel, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 100 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas était très irrité et il demandait la mort. Ah, je savais bien que tu étais un Dieu plein de pitié. On pourrait traduire clément, bienveillant, plein de pitié et de tendresse. Il s'agit de l'amour instinctif d'une mère pour son enfant. L'amour matriciel, littéralement en hébreu. Lent à la colère, on pourrait traduire indulgent, riche en bonté, on pourrait traduire grand en dévouement, et qui se repent du mal, on pourrait traduire qui redresse les situations. Ah, je savais bien que tu es un Dieu de pitié, de tendresse, indulgent, grand en dévouement, et qui redresse les situations. Ah, je savais bien. Comment cela, Jonas ? Si ce n'est par la voix de la conscience, l'appel éternel et inlassable de l'amour de Dieu. Ah, je savais bien que tu es un Dieu de pitié, de tendresse, indulgent, grand en dévouement et qui redresse les situations. Que fais-tu, petit livre, entre Abdias et Miché ? Tu mérites mieux. Je te verrai après le dernier mot de l'Ancien Testament, en Malachie, qui dit « Interdit, anathème » pour contrer cette notion d'interdit et d'anathème, pour dépasser les textes les plus étroits de l'Ancien Testament et pour annoncer peut-être déjà l'Évangile qui est la bonne nouvelle du salut pour tous. Car déjà, le livre de Jonas tourne autour de cette bonne nouvelle, confession de foi, et illustre cette bonne nouvelle, confession de foi. Puisse-t-elle encore aujourd'hui, pour nous, cette actualité changeante et toujours la même, être au cœur de notre spiritualité, que l'on soit pour les Israéliens d'aujourd'hui victimes du Hamas, ou pour les Palestiniens d'aujourd'hui victimes de la haine, de la guerre, et aussi en premier du Hamas. Quand l'horizon est bouché, croyons malgré tout à ce petit livre qui fait dire au petit prophète, dont le nom signifie colombe, Jonas signifie colombe. Ah, je savais bien. Comment le savais-tu ? Je savais bien que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, indulgent, grand en dévouement et qui redresse les situations. Jonas, fais-tu bien de t'irriter ? Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, plein de pitié et de tendresse, nos chemins demeurent barrés par des océans de préjugés, des tempêtes de peur, des montagnes, des mauvaises volontés, des déserts d'incompréhension, d'orgueil et d'ignorance. Toi seul, Dieu d'unité et de bonté, transforme nos vies et élargis notre regard. Toi seul, Dieu d'unité et de bonté, transforme les étoiles du ciel en enfants d'Abraham et fait fleurir comme une rose le sable du désert. Merci parce que tu es pour les autres, pour le monde, comme pour moi, un Dieu d'unité, de bonté, plein de tendresse. Et c'est ta vérité. Amen. Avec plusieurs témoins de la Bible, nous disons avec Moïse, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. » Avec David, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec Ésaïe, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Amen. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim, donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, manifestez de la douceur envers tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, qui est la clé d'interprétation de l'Écriture. Amen.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette Église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.